L'Instant Conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
L'Instant Conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte. C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte.
Si vous êtes sincèrement curieux de connaître les conditions de la pêche aux perles dans les îles Marquises, les possibilités d'emploi sur le chantier de la future voie ferrée du Transdésert, de Gobi, ou les potentialités offertes par n'importe laquelle des républiques bananières où ça chauffe, allez au café Cambrinus, situé Wasba Avenue, Chicago. Là, à l'arrière de la salle à manger, où les néo-bohèmes se collettent chaque soir avec leurs spaghettis et leurs raviolis, il y a une petite salle pleine de fumée qui est une sorte de bureau central pour les aventuriers. Et quand vous pénétrez dans cette salle, et à moins que vous n'ayez obtenu l'approbation de Cambrinus, vous n'avez pas plus de chance d'y pénétrer que le concurrent zoologique du fameux Gymkhana, chameau-chat d'une aiguille. Il y aura aussi un soudain silence. Puis, un nombre variable d'yeux vous parcourront du regard avec cette intensité pleine de détachement qui est le résultat d'une contemplation périodique de la mort. Cette inspection n'est pas que le fait d'un manque d'éducation. Si l'on n'a rien à vous reprocher, très bien. Si vous êtes un inconnu, très bien. Aussi, Cambrinus vous a laissé passer. Au bout d'un instant, la conversation reprend. Mais un soir, où la porte s'ouvrit d'une poussée, des hommes levèrent la tête, des coups d'œil d'identification traversèrent la salle. Un homme se leva à moitié de l'une des tables de jeu, une main derrière le dos. Deux hommes se laissèrent choir sur le sol, venant de la porte. Il y eut un bruit sourd, et ce qui avait débuté dans l'archipel malais se termina dans l'arrière-salle du Cambrinus. Mais cela est une autre histoire. Émergeant en janvier du désert balayé par le vent de Wasba, avenue, j'entrai dans le bar douillet de Cambrinus, et fort d'un sourire de Cambrinus en personne, je traversai la salle à manger, où les serveurs étaient en train de débarrasser les tables d'hôtes de leurs détritus et les envoyer d'un coup de balai dans la petite arrière-salle. Les deux hommes que j'avais vus précédemment au café étaient assis à l'une des trois tables, avec devant eux des bouteilles à moitié vides d'un breuvage dépourvu d'étiquette et connu par les initiés sous le nom de Kentucky Brew. Ils firent signe que oui, et je les rejoignis. Cigarette ? Demanda le plus grand des deux, un homme décharné au visage de la couleur d'un cuir à demi tanné, en poussant à travers la table un paquet de cigarettes bon marché. « Il est possible que le gentleman préférerait l'une de celles-ci, » dit l'autre avec un sourire qui découvrit une rangée de dents, une blancheur éclatante, en dessous d'une moustache soigneusement effilée. Et d'une main, petite et bien manucurée, il poussa vers moi un étui à cigarettes orné d'un monogramme. « Ça m'étonnerait pas, » grommela le grand, sa pomme d'Adam montant et descendant au-dessus du col de sa chemise de flanelle. « Personnellement, peut pas l'épiffer. » Prenant l'une de ses propres cigarettes, il enroula l'extrémité entre le pouce et l'index jusqu'à ce qu'un petit monticule de tabac se soit empilé devant lui sur la table. Après quoi, ayant ramassé avec précaution cette chique filandreuse et se l'étant fourrée sous la langue, il alluma la moitié de cigarette qui restait. « C'est drôle cette façon de fumer une cigarette, n'est-ce pas ?» dit en souriant le petit homme brun en me tendant une allumette. Je remarquai un monogramme en forme de deux canons croisés sur son étui en le lui rendant. « Artillerie française ?» demandai-je. « Mais oui, monsieur, le 75. » Il sourit de nouveau et son visage tout entier s'illumina. « Dites, » interrompit l'homme décharné en me regardant pensivement, « l'artillerie, ça serait pas votre métier des fois ?»« Non, » dis-je, « ça demande trop d'intelligence. » « C'est dommage, c'est rudement dommage que ça le soit pas, » répliqua l'homme au visage de cuir à ma réponse négative et à mon commentaire. « Pourquoi ?» dis-je. Il y a un bon job en ce moment. Il fit rouler le tabac sous sa langue et tira à fond sur son mégot. Pour des canonniers, Pérou, Verstus et contre Chili. $200 par mois. Or, sourit le français en tortillant sa moustache. Or, enchaîna le visage de cuir. On a eu le tuyau par Cambrinus. C'est des officiers d'artillerie qui veulent. On a vu le consul. Il est gras, important et huileux. Guerre avec le Chili, ridicule, il a dit. Je lui ai causé espingouin un moment et on s'est mis d'accord. Napoléon ici présent. Le français s'inclina. Lieutenant Denis Rico. Napoléon ici présent, enchaîna impassible, visage de cuir. Et moi, on est des officiers de l'armée royale républicaine péruvienne avec des billets pour New York. Il tapota sa poche de veste. Là, on verra le consul du Pérou et on présentera nos papiers. Il tapota de nouveau sa poche et on sera embarqué dans le Pérou via l'isthme. Buvons un verre. Il pressa sur le bouton placé sous la table et Antonino, le serveur, sarde, trapu, passa la tête dans l'embrasure de la porte. « Si vous n'en avez pas encore bu, Que direz-vous d'un cognac bénédictine ? Demanda l'homme au visage de cuir. J'acquiesçais pensif. Trimartel Benedict, Nino. C'est d'accord avec Cambrinus ? Antonio fit signe que oui et disparut. Rico me gratifia de son éclatant sourire. Et vous entendrez des gens dire que l'absinthe est un breuvage nocif. J'étais en train de me poser des questions sur la boisson que Visage de Cuir venait de commander. Car il n'y a qu'un seul endroit au monde où les gens boivent cette mixture douceâtre, traîtresse, et qui vous pourrit le cerveau. Et j'étais encore en train de m'interroger quand Antonio revint avec les boissons. Non pas dans des verres à liqueur, mais dans de grands récipients à cocktail. Ceux-là sont entièrement in toto pour moi, dit le Visage de Cuir en tirant de sa poche une liasse de billets. Moi et Napoléon, on est maintenant émolumentés au taux de $200 par mois. Or, sourit Rico. Or, termina calmement Visage de Cuir. À propos, je m'appelle Graves, Perry Graves. Il me regarda à travers la table. Moi, c'est Rinaldi. Rinaldi Rinaldo. Et je dis. Rital ? A demandé Graves, haussant simultanément ses sourcils et sa pomme d'Adam. Grand-père était italien, ai-je répliqué. Rital, hein ? A dit Graves. Comme s'il n'avait pas entendu, et puis, levant son verre, « Napoléon et vous, signor Risolvo, j'aimerais porter un toast. Vous, Napoléon, dites « Abal Chili » et vous, Risolto, dites « Delandare Chili » et moi, je bois en disant au Chili qu'il aille se faire voir. Nous vidâmes tous nos verres. « Abal Chili » dit pensivement Graves. Puis, sur un ton ergoteur, « Ils sont pas si mal que ça, ces Chilis. Vous êtes déjà allé au Chili » ai-je demandé. « Non, a dit Graves. De sacrés canailles, ces salauds de Chili. Le capitaine Graves se charge personnellement de sa propre propagande, a dit Rico, en souriant, et il allumait une cigarette. On va se rassembler autour de la dugnut. De la dugnut péruvienne, a dit Graves, d'un ton songeur, en éventrant une autre cigarette. Suivez la dugnut, mes garçons, mes braves garçons. Vive la dugnut. Vive la dugnut péruvienne. Et abat le Chili con carne. Une bande de canailles, ces Chili. Qu'est-ce que la dugnut, mon cher Graves, a demandé Rico, perplexe. Rendez le monde sûr pour la dugnut. La grande et antique dugnut péruvienne. N'abandonnez pas la dugnut. N'oubliez jamais la dugnut. Le Pérou espère que chaque dugnut fera son devoir. Psalmodiait Graves d'une voix monocorde. Drapez-moi dans une dugnut, mes braves. Non, ça ne sonne pas bien. Ça n'a pas ce quelque chose que devrait avoir un slogan. Mais ces Chilis sont des canailles. Le capitaine est très patriote, n'est-ce pas ? La dugnut est l'emblème national du Pérou, je présume, demanda Rico. Jamais été au Pérou, mais on va leur apprendre à ces salauds de Chili qu'ils peuvent tout de même pas fouler aux pieds la grande et antique dugnut péruvienne, Napoléon, a dit Graves en cognant violemment du poing sur la table. Vraiment, nous devrions en savoir un peu plus long sur le pays à la disposition duquel nous avons mis nos épées, murmura Rico en manière d'excuse. Comment est, je me le demande, le drapeau du Pérou ? Incapable personnellement de me servir d'une épée, a dit Graves, d'un ton maussade, tout en levant son verre. Ça me rappelle quelque chose. Dites, avez-vous jamais été en Italie ? 3 ans, ai-je répondu. Durant la guerre ? Et Graves me lança un coup d'œil. Durante la guerra, ai-je dit. Bravo, jamais entendu parler d'il lupo ? Qui, en Italie, n'a pas entendu parler d'il lupo, le loup, l'as des as des Italiens et qui ne le cède qu'à feu Baracca. N'importe quel écolier peut dire le nombre de ses victoires et raconter son combat avec le baron von Hosser, le grand pilote autrichien. Raconter comment son canon enrayé et son observateur mort dans le cockpit, il ramena von Hosser vivant dans les lignes italiennes. « Est-ce un brave ?» demanda Graves, et les traits de son visage se durcirent. « Bien sûr, ai-je dit. Certainement, dit en français Rico, qui ne connaissait son histoire aussi bien que moi. « Non, dit calmement Graves, et un sourire rida le masque de cuir de son visage. « Je m'en remets à vous, Napoléon, et à vous, signor Liposo, pour dire si c'est un homme brave, la guerre est finie. Il me semble avoir entendu dire quelque part, murmura Rico. La guerre est finie, il continua calmement Graves. Avant la guerre, chef de pièce d'artillerie de campagne. À la fin de la guerre, j'étais capitaine d'artillerie de campagne. Je faisais fonction pro tempo de capitaine d'artillerie de campagne. Au bout d'un certain temps, on nous a tous rétrogradés à notre grade d'avant-guerre et je me suis fait démobiliser. De capitaine à sergent, c'est une sacrée dégringolade. Vous comprenez, j'étais un officier, mais pas un gentleman. Je pouvais commander une batterie, mais j'ai très mauvais goût, question cigarette. Mais j'étais pas plus loti que des tas d'autres d'anciens sous-off. Certains ont été commandants ou même lieutenant-colonel. Maintenant, ils sont tous de nouveau sous-off ou dans le civil. Napoléon, ici présent, est un gentleman. On peut le dire rien qu'en le regardant. Mais moi, j'en suis pas un. C'est pas pour ça que je vous dis ça. Et si c'est comme ça qu'ils veulent diriger leur armée, moi, j'y vois rien à redire. Il leva son verre. Ah bah les Chiliens, après l'armistice, j'ai eu droit à une perme. Et comme j'avais une feuille de route bonne pour l'Italie, je suis descendu par Gênes et Pise jusqu'à Rome, où un type m'a dit qu'il faisait beau temps en Sicile. C'est là que j'ai appris à boire ça. Constatant que son verre était vide, il pressa sur le bouton en dessous de la table. Trop de ce machin-là, c'est pas bon pour un homme. De la tête, j'ai fait oui. Partant d'un patelin nommé Villa San Giovanni, on fait la traversée sur un bac, et on arrive à Messine, où on peut prendre un train. Dans un sens, il va à Palerme, dans l'autre, à Catane. Pour moi, la direction à choisir, c'était du pareil au même. On était toute une foule sur le même quai où les deux trains attendaient. Et voilà qu'une femme vient à moi et me dit en souriant « Vous êtes bien le capitaine américain Forbes et vous allez à Tower Mine ?» Ce capitaine, c'était pas moi, bien sûr. Et un gentleman comme Napoléon aussi présent aurait dit combien il était désolé, mais qu'il n'était pas le capitaine Forbes. Mais moi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai salué, et quand je l'ai regardé, j'ai admis que j'étais bien ce capitaine en route pour nulle part via Tower Mine, où ça puisse bien être. Elle en fut ravie, mais elle a dit qu'elle ne m'avait attendu que dans 3 ou 4 jours. Et comment allait cette chère Dionysa ? J'avais été au Corso Cavalli à Rome, et comme j'avais gagné de l'argent en misant sur une chienne du nom de Dionysa, qui était arrivée de derrière dans la dernière ligne droite, remportant ainsi la plus jolie course qu'on ait jamais vue, j'ai dit sans mentir que de sa vie, Dionysa ne s'était jamais mieux portée. Et Bianca, comment allait-elle, la chère petite ? Bianca, pour autant que je le sache, jouissait d'une excellente santé. Toujours est-il que pendant tout ce temps, nous avions pris place dans un compartiment de première classe, et la signora, dont je n'avais pas saisi le nom, était en train de s'exclamer comme c'était drôle et quelle chance ça avait été que nous nous soyons rencontrés ainsi. D'après la description que lui en avait faite de moi Dionysia, elle m'avait tout de suite reconnu. Et est-ce que ce n'était pas merveilleux que la guerre soit finie ? Et que l'on puisse de nouveau s'amuser tous un peu. Et le beau rôle que nous avions joué, nous autres Américains. Ça, c'était du temps où quelques Européens admettaient encore que les États-Unis avaient pris part à la guerre. Tout du long, du côté droit de la voie du chemin de fer, ce ne sont que des plantations de citronniers et orangeries. Et c'est si joli que ça vous fait mal aux yeux. Des collines cultivées en terrasse et des fruits jaunes brillant à travers les feuilles vertes et le vert plus sombre d'olivier sur les collines. Et des rivières au large licaillouteux et à sec se frayant un passage vers la mer. Et de vieilles maisons de pierre, et tout ça qui n'est que couleur. Et du côté gauche, on a la mer beaucoup plus bleue que la baie de Naples et la côte de Calabre. Là-bas en face, est d'un pourpre qui n'a pas d'égal au monde. Ma foi, la signora était tout aussi agréable à regarder que le paysage. Seulement, elle était différente. Des cheveux d'un bleu noir et un visage de la couleur d'un vieil ivoire et des lèvres rouges et charnues, et un de ses sourires, vous savez à quoi ils vous font penser, signor Lescosa. Mais qu'à avoir cette plaisante aventure avec la valeur du loup capitaine ? Demande Rico, qui avait ses propres idées sur les traits féminins. Énormément, Napoléon, enchaîna Graves. Elle avait ses lèvres rouges, vous comprenez ? Venez-en au loup, et au diable les lèvres rouges de la signora, s'écria Rico excédé. Dieu bénisse ses lèvres rouges, Napoléon. Et au bout de quelque temps, le petit train s'arrêta à une gare nommée Jardini, et elle a dit que c'était là que nous descendions et que Taormina était la ville en haut de la colline. Il y avait une voiture qui nous attendait et nous sommes montés dedans et nous avons gravi la route enlacée vers la petite ville là-haut. J'étais plein de galanterie et de dignité. J'aurais voulu que vous me voyiez, Napoléon. Ce soir-là, nous avons dîné en tête-à-tête. Et c'est moi qui vous le dis, la boustifaille n'était pas rationnée. D'abord un martel bénédicte et puis un antipasto di magro, de toutes sortes de drôles de choses impossibles à identifier mais qui étaient rudement bonnes à manger. Puis un potage et après ça, ces petits poissons, aussi plats que des bébés carrelés, cuisinés comme ces crabes à la coquille molle qu'on mange chez Rousseau à la Nouvelle-Orléans. Une jeune dinde rôtie avec une drôle de garniture et de ce vin de Bronte qui est comme des rubis liquéfiés. Ils font pousser les raisins sur les pentes de l'Etna et il est interdit de l'exporter, vous savez. Comme dessert, nous avons eu ces drôles de choses friables qu'ils appellent pastilecelia et du café noir à la turque avec une liqueur nommée Cointreau. Après le dîner, nous sommes assis dans le jardin, sous les orangers, respirant le parfum du jasmin dont les murs étaient tapissés. Et la lune rendait toutes les ombres d'un bleu noir et plus foncé les cheveux de la signola et plus rouge ses lèvres. Au loin, on pouvait voir la lune sur la mer et la neige sur les flancs de l'Etna, tout aussi blanc que du plâtre dans le clair de lune ou pourpre comme la côte de Calabre. Et en bas, le clignotement jaune des lumières de Jardini. Elle et son mari ne s'entendaient pas tellement bien, semblait-il. Il était aviateur en hystérie. D'hystérie ou quelque part de ce genre. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, avec l'armée réitale de préoccupation. Et elle était contente et heureuse que je sois arrivé pour le distraire pendant quelques jours. Et moi, je l'étais aussi. Toujours est-il que le lendemain matin, nous étions en train de prendre notre breakfast, ou ce que eux, ils appellent breakfast, petit pain, café et orange, le soleil brillant à travers les vastes fenêtres, quand la porte s'ouvre, et voilà que se précipite dans la chambre, excusez-moi, signor Di Solvo, mais un Italien est incapable d'entrer dans une pièce sans s'y précipiter. Un type plutôt beau, avec une cicatrice en travers de la joue, une magnifique cape bleue du genre théâtral sur le dos, chaussée de bottes noires étincelantes et une épée au côté criant « Carissima ». C'est alors qu'il m'a vu assis à la table du breakfast et son « Carissima » s'est achevé en une sorte de gargouille. Son visage tout entier est devenu blanc. Tout entier, à l'exception de cette cicatrice qui se détachait maintenant comme une zébrure rouge vif. « Qu'est-ce que ça signifie ? » a-t-il dit en italien. Et il a tiré vivement son épée. C'est alors que je l'ai situé. J'avais vu ce beau visage avec sa cicatrice sur la couverture d'un tas de magazines illustrés. C'était le Lupo. La signora était en train de pleurer au milieu des assiettes du breakfast et elle avait peur. Mais le Lupo était magnifique. Il jouait dramatiquement la situation et il la jouait parfaitement. Il battait tous les acteurs que j'avais pu voir. « Qui êtes-vous, fils de chien » m'a-t-il dit. Drôle, pas vrai, comme cette expression peut être internationale dans tous les pays. « Capitaine Perry Graves, à votre service, » ai-je dit. C'était une drôle de situation. Le fringant, le beau, le tombeur, bref, le fameux loup, plein d'un juste courroux, et en face de lui, ce vieux Perry Graves, pas plus beau que maintenant. Je n'avais rien du troisième côte d'un triangle, mais je suppose qu'il y avait en moi quelque chose qui avait plu à la signora. « Allez-vous me rendre raison comme un gentleman ?» m'a-t-il lancé d'un ton cassant. « Certainement, ai-je dit en m'inclinant. « Ici et maintenant ? » a-t-il dit. « Bien sûr, ai-je dit en m'inclinant de nouveau. « Vous avez une épée ? » a-t-il demandé d'un ton plus amer. « Attendez une minute, ai-je dit. Et j'allais chercher mon sac, ma ceinture et mon pistolet. « Vous avez une épée ? » m'a-t-il demandé quand je suis revenu. « Non, ai-je dit. « Je vais vous en chercher une, a-t-il dit de sa manière la plus parfaitement loupeau. « Je n'ai pas besoin d'épée, ai-je dit. « Vous refusez de vous battre avec moi ? Ignoble chien ? Je vais m'en vous réduire en charpie. » L'expression du visage de Graves était aussi dure que sa voix était douce. « Je vais me battre avec vous ici même et sur le champ, » lui ai dit. « Mais vous avez un pistolet ? Et j'en ai moi aussi. » Nous allons nous déplacer, l'un en face de l'autre, de chaque côté de cette table, la touchant de la main gauche. La table n'avait guère plus d'un mètre de large. La signorée va compter 1, 2, 3. À 3, nous commencerons à tirer au-dessus de la table. Le contrôle de la situation passa alors du beau Lupo à Perry Graves, car juste aussi sûr qu'il m'aurait tué avec une épée et le fait que, s'il me tuait avec son revolver à cette distance de 3 pas, j'allais l'emmener avec moi. Il le savait lui aussi, et il a commencé à transpirer. Ce fut là le seul signe. De grosses gouttes de sueur sur son front. Il dégrafa sa cape et sortit son revolver. C'était l'un de ces petits 7,65, une courte petite pétoire, plutôt rébarbative. Nous nous fîmes face de part et d'autre de la table et posâmes nos mains gauches dessus. Je me rappelle que j'avais les doigts dans une tasse à café. Quant à nos mains droites qui tenaient nos pistolets, elles étaient en dessous du bord de la table. J'avais plein la main de mon gros 45. La signora était encore en train de pleurer. « Conte, espèce de catin !» lui a dit le Lupo. Elle s'est mise à sangloter hystériquement. « Emeglio !» a appelé le Lupo. Un serviteur s'est montré à la porte, une expression de peur sur son visage tout pâle. « Place-toi au bout de la table, a ordonné le Lupo, et compte lentement et distinctement. Una, dois, tre. » Le serviteur s'est placé au bout de la table. Je n'avais pas les yeux fixés sur ceux du loup comme il les avait sur les miens. Je regardais son poignet à l'endroit où sa main disparaissait sous la table. « Una, » a dit le serviteur. Je ne quittais pas de l'œil la main du Lupo. « Doué, » et sa main a jailli. La tension avait été trop forte et il allait tirer et tenter de me descendre avant le signal. Ma vieille pétoire cracha une grosse balle de 45 qui lui arracha de la main son arme au moment même où son coup partait. Vous comprenez qu'il n'avait jamais entendu parler du tir à partir de la hanche à la manière cow-boy. La signora s'est levée d'un bond en hurlant et lui a jeté les bras autour du cou. Il était rouge de honte et le choc faisait trembler sa main. Je remis mon revolver dans son étui, pris ma musette et je me suis dirigé vers la porte. Mais, m'arrêtant à la table, j'ai bu debout mon café. Il était froid, mais moi, le matin, il me faut absolument mon café. Pas un mot de plus ne fut prononcé. Elle se cramponnait en pleurant au cou du Lupo, qui était là, debout, rouge et honteux. J'allai à la porte et l'ouvris, et comme je jetais un coup d'œil en arrière par-dessus l'épaule du loup, l'œil de la signora papillota vers moi. Peut-être était-ce un clin d'œil, peut-être que non. J'ai fermé la porte derrière moi et sortant de la cour, j'ai descendu à pied la route menant à Jardigny. Un loup, bon Dieu, non, c'était un coyote. Un coyote, Napoléon, c'est un loup qui n'en est pas un. Alors, est-ce que vous pensez que c'était un brave, signor Dispolto ? Je ne répondis rien. J'étais en train de penser à la manière dont ce vieil aventurier au visage de cuir s'était mesuré à quelqu'un qui, de l'aveu général, était considéré comme l'un des hommes les plus courageux d'Europe. C'est une question d'échelle de valeur, a dit Rico, alors qu'arrivaient de nouveaux vers. Lupo est brave, bien sûr. L'histoire devant nos sœurs en est la preuve. Et puis mon capitaine, c'est un latin. Cela, vous ne pouvez pas le comprendre, car vous avez le courage sans l'imagination. C'est un bon Dieu de monsieur. Rico sourit et hocha tristement la tête. Je voudrais la voir. Je suis mort un millier de fois et je ne suis pas un lâche. Je vais mourir plus d'une fois encore avant qu'on ne m'enterre. Mais c'est comme... C'est comment vous appelez ça, Graves, mon métier ? Nous partons maintenant pour une petite guerre. Peut-être une guerre pour rire, non ? Mais on meurt aussi définitivement au Chili que sur le gibet de mon faucon. Je vous envie, Graves, vous êtes américain. Signor Rinaldi, j'aimerais que vous buviez avec moi à la santé du capitaine Perry Graves, qui est si brave qu'il faisait passer pour un lâche l'aviateur le plus brave de votre pays. Il rit et leva son verre. « Oh quoi, Napoléon ?» protesta Graves, l'air un peu confus. « Disons plutôt, vive la dognette !» C'était l'instant compte avec Les mercenaires d'Hemingway et comme musique le thème du film Le Parrain. Je vous souhaite une très agréable journée sur Radio Sainte-Afrique au 96.7 à Sainte-Afrique, 100.6 à Millau, 99.9 à Belmont-sur-Rance et 92.7 à Camarès.